Moi, je vais repartir simplement d'une question qui avait été à l'origine de cette réunion, c'est de se demander notamment comment on était passé, entre autres hein, dans l'ère arabo-musulmane, mais pas simplement ça, de périodes où l'exposition des agents du pouvoir par des images était rare, très réduite, à des périodes post-coloniales où les portraits des chefs d'État sont multipliés dans la rue, hein, il faut aller à Tunis pour avoir Ben Ali partout, dans toutes les positions et dans tous les vêtements, mais en évitant de se heurter de front à la question de l'interdit de la représentation en pays d'islam, posée parfois de manière dogmatique, on l'a vu ces derniers temps, j'ai voulu travailler sur un temps qu'on qualifiera de manière commode de temps intermédiaire, dans ces acclimatations des portraits de dignitaires d'État à des terres donc, qui ont rarement recouru à ces portraits de manière importante. Et dans la province ottomane de Tunis, je ne prononcerai pas le nom Tunisie, mais je me limiterai à ce terme de province ottomane de Tunis. Donc dans cette province, c'est à partir des années 1840 que commencent à apparaître, d'une part, les portraits des beys husseinites, qui sont donc des gouverneurs issus de la famille de Hossein Ben Ali, installés au pouvoir à partir de 1705, qui n'a rien à voir avec le Ben Ali d'aujourd'hui, c'est autre chose. Et de l'autre, à côté de ces portraits des beys, les portraits donc de leurs plus hauts serviteurs, donc des dignitaires issus du corps des mamelouks. Et j'explique ce que sont des mamelouks. Ce sont des enfants ou des adolescents amenés en pays, achetés ou bien pris dans des raptes ou des razzias de corsaires, qui sont ensuite éduqués dans le palais, qui accèdent soit à des fonctions subalternes de garde du corps, ou bien à des grandes fonctions type vizir ou général. Donc, j'ai inclus à la fois les portraits des beys et les portraits des mamelouks parce qu'on ne comprend pas les portraits des mamelouks sans passer par les portraits des beys, qui sont donc leurs maîtres. Et cette période des années 1840 que je vais traiter jusqu'aux années 1860-70 est une période de ce qu'on appelle les réformes, les tanzimat dans le terme ottoman, arabo-ottoman, qui est donc une période de mise en place de l'armée régulière, Nizam Jadid, et mise en place aussi d'une administration beaucoup mieux organisée, hiérarchisée. Et dans ce contexte des réformes, je vais me demander à qui s'adressent donc ces portraits de Bey et de Mamelouk. Et donc à présent, il y a quand même trois difficultés à étudier ce type de portrait. D'abord un problème de conservation, puisque la majorité des portraits que je vais vous montrer sont conservés pour Sala Saïd, donc le palais du bonheur de la félicité, qui se trouve dans la banlieue nord de Tunis, près du palais principal des beys, qui se trouvait au Bardo. Donc banlieue nord de Tunis, Bardo, et à l'intérieur du Bardo, ce palais-là. Et ce palais est en restauration, mais on expose très rarement ces portraits de beys mamelouks, malgré le fait que la dynastie des Husseinides a été donc déchue il y a une cinquantaine d'années, et que donc a été votée la mise en place de la République il y a 50 ans. Et parmi autres difficultés, c'est que nombreux tableaux ont été perdus, on le sait, parce qu'il y a des descriptions d'autres tableaux qui étaient présents et qu'on ne retrouve pas. Troisième difficulté, c'est qu'au fil des règnes, on ne sait pas précisément comment étaient disposés les tableaux, et ça aurait été important notamment de savoir comment on disposait les tableaux de Mamelouk par rapport aux portraits de leur maître. Comment on disposait aussi les portraits des beys par rapport à ceux des souverains européens qui étaient reçus lors de manifestations diplomatiques. Enfin, dernière difficulté, on a peu d'archives sur les commandes. Et ça, c'est pas parce qu'une mauvaise administration financière, au contraire, au XVIIIe, XIXe siècle, on dispose de nombreux registres sur l'administration de la maison beylicale. Et par ailleurs, on a pour une période plus tardive, surtout les années 1860-70, des documents sur des commandes de photos par des princes de la famille Husseinite, que sont des princes de moindre importance malgré tout. Mais on va essayer de travailler surtout à partir des récits de voyageurs européens et des correspondants de consuls européens qui évoquent la réception des tableaux dans les palais beylicaux. Et le problème, c'est que travailler sur ce type de sources, c'est envisager avant tout ces tableaux sous une influence occidentale. Alors certes, on va montrer que c'est d'abord dans un contexte diplomatique qu'il faut envisager l'apparition de cette culture iconographique dans le palais des beys, et que par ailleurs, dans un second point, on montrera en quoi ces portraits permettent aux beys et à leurs mamelouks de s'affirmer comme des hommes de la réforme et de se percevoir comme des hommes de la réforme. enfin, dans une dernière partie, on essaiera de sortir des palais et de s'attacher peut-être à la question difficile et qui nécessite une certaine prudence de la diffusion au sein du pays. Parce que on peut penser, et très certainement, qu'il y a une très faible diffusion de ces portraits, mais cela pose quand même le problème de la réforme et de la manière d'envisager la réforme, de la manière d'envisager la relation au sujet au temps de la réforme. En sortant peu des palais, on peut se demander si ces portraits ne représentent pas un renfermement des dignitaires sur leur propre monde, et partant de là, une difficulté à associer les sujets, ce qui est peut-être aussi une question anachronique pour la période de la réforme. Bon, donc je vais commencer d'abord par le fait que cette culture iconographique qui nous intéresse ici se resitue dans une nouvelle conception des relations diplomatiques. Alors, dans un ouvrage assez récent de Christian Vindler sur les consuls européens à Tunis de 1700 à 1840, donc Christian Vindler, qui est un historien suisse, a voulu montrer que durant cette période, la progressive imposition des normes européennes à Tunis n'était pas le résultat d'actions unilatérales, c'est pas la volonté simplement des Occidentaux, mais c'était le fait d'un dialogue déséquilibré entre acteurs de cultures différentes. Alors c'est très très conceptuel, mais pour dire les choses très clairement, c'est qu'à la fin de la période, par exemple, les Belges et leurs proches, les proches de la famille, pouvaient se rendre à des réceptions chez les consuls. Alors qu'au départ, les consuls devaient se déplacer dans les maisons belliques. Par ailleurs, effet peut-être plus significatif, les cadeaux et les présents qui étaient présentés donc aux beys ne sont plus. Les consuls ont réussi à ne plus donner de cadeaux aux beys, donc à reformuler le langage protocolaire. Or, pour la période qui nous intéresse, donc à partir des années 1840, on peut estimer, en étudiant les portraits, qu'ils n'entérinent pas explicitement ces mutations ou bien un déséquilibre qui serait apparent en faveur des Européens. Au contraire, les épisodes où des Occidentaux décrivent les réceptions des tableaux au palais du Bardo démontrent une volonté de concevoir une communauté de valeurs qui dépasse tout clivage religieux et qui gomme par des semblants d'équivalence, la réalité d'un rapport de force qui a tout de même clairement tourné à l'avantage des chrétiens. Donc j'utilise le terme chrétien parce que c'est comme ça que l'on percevait aussi les chrétiens pour la période. Alors le recours au tableau dans les relations diplomatiques n'est pas daté du XIXe siècle, surtout pour le centre de l'Empire ottoman, puisque dès le XVIe siècle, et même au XVe siècle encore, les sultans ottomans faisaient parvenir leurs représentations à des souverains européens, notamment en Italie, enfin à Venise notamment, mais aussi à Gênes. Et pour notre cas, donc pour la province de Tunis, ce recours diplomatique au portrait s'affirme donc dans les années 1840 avec le personnage de Ahmed Bey, qui est un peu composé, non, il est bien présenté. Donc Ahmed Bey règne à partir de 1837 jusqu'en 1855. Ce qui est intéressant, c'est que ce portrait est attribué, donc c'est une lithographie attribuée à Charles Glaire, et c'est un portrait qui aurait été commandé par Louis-Philippe, selon le Journal des Débats et le Moniteur Universel, au moment où Ahmed Bey se rend en visite à Paris. C'est la